Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Molny, qui n'est pas venu de très loin, puisqu'il est directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense et d'armement. Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Le lundi prochain, lundi 17 juin, va s'ouvrir le Salon du Bourget, salon aérien. Est-ce que c'est la grande foire aux armements? Est-ce que c'est vraiment le salon des ventes d'armes?
C'est un salon qui est civil et militaire, donc c'est pas uniquement le salon des ventes d'armes, mais c'est sûr que c'est un des plus grands salons aériens au monde. Et c'est vrai qu'il y a également des transactions sur les questions d'armement au moment du salon du Bourget.
Alors, à quoi sert ce type de salon? C'est une façon de montrer sa technologie, de réunir du monde, de faire des relations publiques. Quelle est la rationalité de faire ce type de salon et en quoi est-ce utile?
Il y a un aspect communication dans les salons aéronautiques. L'aspect communication, c'est montrer ses matériels. C'est montrer ses matériels aux acheteurs potentiels. Les acheteurs potentiels, ça peut être les compagnies aériennes. Les acheteurs potentiels, ça peut être les forces armées. Et puis, c'est le moment où on annonce les commandes. Alors, en général, c'est plutôt les commandes civiles qu'on annonce à ce moment-là. Et généralement, à l'issue du Salon du Bourget, on fait d'ailleurs le rapport entre Boeing et Airbus qui a vendu le plus d'avions civils à ce moment-là.
Mais généralement, les affaires sont conclues avant parce que ça se négocie quand même de longue date, l'achat d'avions, de matériel militaire ou civil.
Tout à fait, mais l'aspect communication est extrêmement important au moment du Salon du Bourget.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il est nécessaire d'organiser un salon pour vanter les mérites d'un avion, qu'il soit civil ou de combat, que l'on peut tester par ailleurs?
C'est vrai qu'effectivement, on peut faire des démonstrations et ça se fait régulièrement pour vendre ses matériels à l'étranger. On ne se contente pas de vendre ses armes uniquement lors des salons aéronautiques. Mais ça a quand même une vertu pour les industriels notamment, c'est que ça leur permet dans un petit nombre de jours de voir un grand nombre en fait de clients potentiels.
D'accord.
Donc il y a quand même un aspect positif
du
pour
coup,
eux.
Du coup, c'est le côté hub qui fait l'intérêt, c'est que tout le monde se réunit et acheteurs, vendeurs, tout le monde est là.
Tout à fait. C'est quand même très important. Et d'ailleurs, si on regarde les journées du Salon du Bourget, ça se déroule durant 6 jours. Et les 3 ou 4 premiers jours sont des journées uniquement professionnelles, qui ne sont pas ouvertes au public.
Parce que c'est ça, il y a quand même les deux aspects. Il y a le côté public où les gens viennent en masse. Il y a quand même une assistance extrêmement nombreuse parce qu'il y a toujours un intérêt du grand public pour les questions aériennes. Et puis donc, il y a le côté un petit peu plus fermé, là, qui concerne uniquement le militaire ou aussi bien civil et militaire?
Civil et militaire. Mais effectivement, les journées professionnelles ont un rôle extrêmement important. Et puis, les journées grand public, c'est aussi un moyen de montrer sa force technologique vis-à-vis du grand public. Et les démonstrations aériennes qui sont faites en général à l'heure du déjeuner, d'ailleurs, sont des démonstrations aériennes qui sont extrêmement spectaculaires, y compris avec les avions civils. On fait faire aux avions civils ce qu'on leur fait jamais faire pour les personnes qui sont transportées tout au long de l'année.
Très bien. Alors, on va, comme vous êtes spécialiste des questions de défense et non pas d'aéronautique civile, se concentrer un peu sur la question de l'armement. La France vient d'annoncer un chiffre record de vente d'armes. Est-ce que l'industrie française d'armement se porte bien?
Chiffre record, c'est quand même un chiffre moins important que dans les années 2014-2015, où là, ça avait été vraiment un chiffre record. Le chiffre de 9 milliards d'euros qui a été annoncé est effectivement un bon chiffre, on va dire. L'industrie de défense française, en termes d'exportation d'armement, elle se porte effectivement certainement mieux que ça ne pouvait être le cas, on va dire, entre 1995 et 2005, où il y avait eu des années qui étaient plutôt des années pas très bonnes, si vous voulez. Et donc là, effectivement, depuis 5-6 ans, on a effectivement des bons chiffres en termes d'exportation d'armement.
Est-ce que l'industrie européenne ou l'industrie française d'armement est menacée par l'industrie américaine? Est-ce qu'il y a vraiment une guerre entre l'Europe et les États-Unis ou entre la France et les États-Unis par rapport à la volonté du président américain qui demande ouvertement aux pays européens d'acheter américain?
Alors, il y a deux mouvements qui se déroulent en même temps, c'est-à-dire que depuis que Trump a été élu aux États-Unis, il y a une demande très forte du président américain d'acheter du matériel américain, mais corrélativement, il y a des initiatives qui ont été prises par les Européens afin de développer leur capacité militaire dans un cadre collectif et avec des financements communautaires. Or, il se trouve que ces financements communautaires iront majoritairement, si ce n'est exclusivement, à l'industrie européenne d'armement. Et donc, effectivement, ça a provoqué la colère des Américains. On le voyait venir depuis un an. Et là, il y a une lettre, on va dire, quasi incendiaire, qui a été adressée, effectivement, aux autorités européennes.
Par Mike Pompeo ?
Par le sous-secrétaire, la sous-secrétaire d'État sur les questions de maîtrise des armements au département d'État et la sous-secrétaire d'État à la politique d'acquisition au ministère de la Défense. Donc demandons aux Européens de revoir leur copie par rapport aux initiatives en cours, notamment le Fonds européen de défense, avec une menace implicite qui serait une fermeture du marché américain aux Européens si jamais les Européens n'obtempéraient pas. Et là, c'est pas uniquement les Français qui sont visés, c'est véritablement les Européens. Et l'initiative la plus importante, celle du Fonds européen de défense, elle vient certes des Français, mais elle vient surtout de la Commission européenne.
Mais est-ce que le marché américain est ouvert? Est-ce que cette menace de fermeture du marché américain a un sens alors que on l'avait vu pour l'avion de transport militaire dont le Airbus qui avait gagné le contrat a été cassé? Il y a très peu de ventes d'armes européennes aux États-Unis alors qu'il y a beaucoup plus de ventes d'armes américaines en Europe.
Bah tout à fait, c'est d'ailleurs la réponse qu'ont fait les Européens aux Américains. En leur disant, d'abord, le marché européen ne sera pas fermé, relisez bien les initiatives qui sont en cours. Et puis, deuxièmement, si vous voulez faire une comparaison, effectivement, des réglementations qui existent quant à l'accès du marché américain et l'accès du marché européen, vous verrez que le marché américain est plus fermé que le marché européen. Et puis, enfin, il y a une comparaison qui est faite sur les ventes d'armes entre les États-Unis et les Européens, c'est-à-dire des États-Unis vers l'Europe et de l'Europe vers les États-Unis. Et là, on est dans un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que les Américains, sur 3 ans, ont vendu pour plus de 60 milliards de dollars d'armement aux Européens, alors que les Européens n'ont vendu qu'un peu plus de 7 milliards de dollars aux Américains.
Est-ce que vous insinueriez, Jean-Pierre Molny, que lorsque le président Trump dit que les Américains payent pour la défense des Européens, il ne serait pas tout à fait dans la réalité?
Bah, ce que j'insinue surtout, c'est que le président américain, il souhaiterait que les Européens payent pour leur défense, mais en achetant du matériel américain. Et je pense que c'est véritablement ce qui lui importe le plus. Parce que c'est un président qui a en tête véritablement toute la question de la balance commerciale en tête, et non pas les questions de sécurité. Et sur les questions d'armement, ce qui lui importe, c'est la balance commerciale et rien d'autre. Et donc, il veut absolument que les Européens achètent du matériel américain. Et d'une certaine manière, il a quand même plutôt satisfaction, puisque les Belges ont acheté donc l'avion de combat F-35 il y a un peu plus de 6 mois, ils en ont fait l'annonce, et il y a 2 semaines, les Polonais ont fait la même annonce en demandant effectivement d'acheter des avions F-35.
Puisqu'on reste sur l'Europe pour le moment, on va en sortir un peu par la suite, mais quels sont les pays européens qui ont une véritable industrie de défense? Est-ce que souvent le reproche qui est fait par certains Européens à la France, c'est de dire « vous parlez de défense européenne, vous parlez d'industrie européenne de défense, mais en fait c'est pour vendre vos avions, c'est pour vendre vos équipements militaires ». Est-ce qu'il y a d'autres pays européens que la France qui ont une industrie militaire, et quel est le tableau européen en matière d'industrie de défense?
Bah, le tableau européen en matière d'industrie de défense, c'est le fait qu'on a un pays qui est à peu près au même niveau que la France en termes d'industrie d'armement, mais qui va sortir de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. Les Allemands ont quand même une industrie d'armement importante. Ça représente, on va dire, à peu près les deux tiers de l'industrie d'armement française. Et puis ensuite, on a un certain nombre de pays qui ont une industrie d'armement qui sont significatives en Europe. D'abord les Italiens, qui sont, on va dire, numéro 4. Et puis ensuite, les Suédois et les Espagnols. Et si on additionne ces six pays, ça représente 90% des capacités industrielles de défense au niveau de l'Union européenne.
Alors, à qui la France vend des armes? Comment les exportations d'armes, donc, qui étaient l'an dernier d'environ une dizaine de milliards d'euros, vers où vont-ils?
Alors, ça va dépendre des années, ce qui veut dire que...
En grande base, disons sur la longue période.
Ce qui veut dire qu'il faut regarder effectivement sur une dizaine d'années. On est, on va dire, majoritairement dépendant du Proche-Orient. On vend à peu près 50% de nos armements au Proche-Orient.
Grosso modo, sur la longue période, année après
oui,
année.
Oui, c'est ça. Alors, grosso modo, c'est à peu près 50%. Certaines années, ça va faire 60%. Parfois, un peu moins de 50%. Mais c'est une dépendance qui était quand même assez forte. Après, les autres pays, les autres régions qui achètent des armements à la France, c'est l'Asie, avec un pays qui est assez important dans la région, dans cette région, c'est l'Inde, qui a toujours été un acheteur d'armement important. Et puis, enfin, on a l'Union européenne, qui est vers lequel on achète.
Il y a néanmoins des pays européens qui achètent à la France. Les pays européens qui n'ont pas d'industrie de défense n'achètent pas tout aux États-Unis.
Tout à fait. Bah, d'abord, il y a des programmes en coopération. Donc quand vous avez des programmes en coopération, nécessairement vous avez des flux qui vont d'un pays à un autre. Les Espagnols viennent d'acheter l'année dernière du NH90. Le NH90, il est fabriqué en France, mais il est fabriqué également par l'Allemagne, et par les Pays-Bas et par l'Italie. Donc quand vous avez une vente de NH90 vers l'Espagne, vous avez en fait quatre pays qui vendent des armements vers l'Espagne.
Alors il y a tout un débat là, une polémique même sur les ventes d'armes françaises, notamment à l'égard de l'Arabie Saoudite. Un bateau qui devait charger des armes au Havre puis à Marseille a été bloqué. Beaucoup d'ONG disent qu'il est immoral de vendre des armes à l'Arabie Saoudite puisqu'elles sont, selon elles, utilisées au Yémen dans une guerre civile avec des dommages humains extrêmement importants. La réponse française a été de dire oui, mais on a besoin de cela pour pouvoir, disons, élargir, parce que le marché français ne serait pas suffisant. Et puis, il y a aussi, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais vous pourrez varier les réponses, les Allemands qui, sur ce point-là, n'ont pas fait preuve de solidarité avec le gouvernement français.
Bah effectivement, il y a une question à l'heure actuelle qui, on va dire même qui traverse tous les pays de l'Union européenne, qui est la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Alors, la question principale qui se pose par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est une violation éventuelle du traité sur le commerce des armes, parce que l'Arabie Saoudite ferait un usage des armes.
Que dit ce traité ?
Bah, ce traité, surtout, il reprend en fait tout le droit humanitaire. Mais dans le droit humanitaire, il y a un aspect très important qui est qu'il ne faut pas que les armes soient utilisées contre les civils.
C'est écrit noir sur blanc dans le texte du traité.
Bah, c'est écrit, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est qu'il faut respecter le droit humanitaire. Mmh. Et le droit humanitaire, lui, indique qu'il faut proportionner l'usage de ces armes et qu'il faut discriminer entre les militaires et les civils. Et le problème, c'est qu'on le sait très bien, les Saoudiens, il y a eu des rapports des Nations Unies sur le sujet, les Saoudiens et également les Émiratis font un usage, on va dire, pas vraiment discriminant de leurs armes au Yémen. Alors, la réponse française, elle n'est pas uniquement sur la question économique. Et si on regarde le poids de l'Arabie Saoudite en termes de vente d'armes, ça ne représente jamais plus de 15% des ventes d'armes de la France. Donc, c'est significatif. Mais j'ai envie de dire, on pourrait peut-être s'en passer. Mais derrière, il y a d'autres questions qui se posent pour la France par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, qui sont, entre guillemets, non pas un véritable partenariat stratégique, mais le fait qu'il est indiqué que l'Arabie Saoudite nous aide pour lutter contre le terrorisme, et puis le fait que l'Arabie Saoudite est un bailleur de fonds sur le G5 Sahel. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'à l'heure actuelle...
Et qu'elle paye également les armes égyptiennes.
Qu'elle est effectivement sur les rafales à l'Égypte, qu'elle est pour partie payée et pour partie elle est caution. effectivement en cas de défaut de, en cas de, défaut de paiement de l'Égypte. Bon. Mais plus largement, ça pose quand même aussi une vraie question de fond, qui est celle de la politique étrangère française au Proche-Orient. C'est-à-dire que la vraie question, c'est est-ce qu'on reste dans la relation qu'on a à l'heure actuelle avec l'Arabie saoudite, ou est-ce qu'on revoit cette, la politique étrangère française, ce qui ne voudrait pas dire nécessairement d'ailleurs un embargo sur les exportations d'armes à l'Arabie saoudite, mais au moins, on va dire, une plus grande retenue. Il faut bien voir quand même que la ministre des Armées a été auditionnée à l'Assemblée nationale sur le sujet, et elle a indiqué que des licences d'exportation avaient été refusées vers l'Arabie saoudite, notamment des missiles, des armements air-sol, c'est-à-dire effectivement des armements qui pourraient être utilisés contre les civils. Donc la France ne fait pas non plus... ne vend pas non plus tout type d'armes à l'Arabie saoudite. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un embargo des Allemands sur l'Arabie saoudite, qui nous pose pas mal de problèmes, mais on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec cet embargo allemand, qui fait que concrètement, les Allemands ne vendent plus de composants aux Français. Or, ces composants sont souvent peuvent équiper nos armements. Il ne faut pas croire que quand on fabrique un matériel français, il est 100% français. Il est français, mais il peut être allemand, britannique, italien, voire américain.
Il y a des composants qui viennent de l'étranger.
Voilà. Et voilà. Ceux qui sont les plus embêtés sur l'embargo allemand à l'heure actuelle, c'est en fait les Britanniques, parce qu'ils ont un gros contrat qui date de la fin des années 2000, qui est la vente d'Eurofighter. À l'Arabie saoudite, donc un avion de combat majeur, et ce contrat a été un peu long à mettre en route, il n'est pas terminé, et là ils sont bloqués du fait que bah, les Allemands sont un des fabricants de l'Eurofighter.
Vous avez parlé tout à l'heure du F-35, donc c'est l'avion de combat américain que les États-Unis cherchent à vendre un peu partout. D'ailleurs, la ministre des Armées, Florence Parly, avait dit que l'article 5 de l'OTAN, c'était l'article 5, donc garantie de sécurité, et pas l'article F-35, acheter des armes américaines. Est-ce que l'industrie européenne, pour l'avion de combat futur, pourra résister à, alors je sais que l'image du rouleau compresseur n'est peut-être pas tout à fait adaptée pour un avion de combat, mais en tous les cas, à cette attaque massive, parce que, visiblement, le but de l'industrie américaine, c'est qu'il n'y ait plus d'avions européens en face et qu'ils aient le monopole dans le camp occidental.
Alors, le F-35, c'est un avion qui pose deux types de problèmes aux Européens et aujourd'hui à l'industrie européenne d'armement. Le premier problème, c'est que c'est un avion qui est extrêmement connecté. Et que si vous voulez fabriquer des systèmes aériens qui ne sont pas compatibles F-35, ça peut vous poser des problèmes. Et les Américains jouent beaucoup de cet aspect. Il faut être connecté avec le F-35. C'est le fameux débat sur l'interopérabilité au niveau de l'OTAN. Le deuxième problème que ça a posé, c'est le fait que les pays qui ont acheté du F-35 ces dernières années, c'est-à-dire essentiellement depuis le début les Britanniques et les Italiens, ont asséché complètement d'abord leur budget de défense, mais également leur budget de recherche et technologie. Ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup en compétences de fabrication d'avions de combat. Et donc le premier problème auquel vont être confrontés les Européens tout simplement dans les années à venir sur le futur avion de combat, c'est tout simplement d'avoir les compétences pour fabriquer cet avion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Alors maintenant, l'avion de combat, le futur avion de combat, en fait, ce qui va remplacer le Rafale et l'Eurofighter, c'est un avion qui arrivera en 2035, donc 15 ans après le F-35. Il n'est pas directement en compétition quand même avec le F-35. Ce qu'il faut éviter, c'est que durant cette période, effectivement, pays achètent du F-35, ce qui les empêcherait en réalité ensuite d'acheter l'avion de combat européen.
Quel est votre pronostic sur cela ? Qui va gagner ? Est-ce que les Américains vont réussir leur pari ou est-ce que les Européens vont résister ? Est-ce que après les achats britanniques, belges, italiens, il y aura d'autres Polonais, d'autres qui vont le faire ? L'Espagne, je crois, est en train de réfléchir. Est-ce que vous pensez que la partie est encore gagnable ou game is over ?
Je ne pense pas que game soit over. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois sera extrêmement important. D'abord, il y aura la question de la pression américaine. Et la crainte, effectivement, c'est qu'on ait tous les pays qui, à l'heure actuelle, craignent un désengagement des États-Unis et qui ont peur d'une résurgence de la menace russe, soit dans une situation où ils disent « oulala, il faut absolument obéir aux Américains, sinon ils vont nous abandonner ». Après, l'autre question, c'est de savoir comment les Américains vont jouer leur guerre commerciale avec les Européens. Est-ce que, notamment, est-ce qu'à un moment, ils vont faire un grand bargaining, c'est-à-dire en mettant l'armement, mais également ce qui est civil ? Et là, finalement, la plus grande crainte par rapport aux Allemands, c'est que le bargaining, il soit également sur les questions d'industrie automobile, par exemple. Là, effectivement, il pourrait y avoir un risque majeur par rapport à l'Allemagne.
Donc le pays clé, c'est l'Allemagne ?
L'Allemagne est un pays clé. L'Italie aussi peut être un pays clé. Il y a une question aujourd'hui qui se pose également. Dans la guerre actuelle, il y a une guerre transatlantique. Il va falloir faire attention également à ce qu'il n'y ait pas de guerre européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un projet franco-allemand-espagnol pour ce futur système de combat aérien. Mais les Britanniques ont annoncé qu'ils développeraient leur propre projet. Et il est très probable que dans les mois qui viennent, ils annoncent des partenariats avec l'Italie et avec la Suède. Et là, on aura une confrontation entre Européens. Et il est évident que si on a une confrontation européenne, ça peut être extrêmement dommageable. Et ça peut profiter aux États-Unis. Donc c'est un des aspects sur lequel il faudra faire attention dans les mois qui viennent. Sachant que... le véritable enjeu derrière, c'est en fait les industries nationales. C'est les pays qui veulent à tout prix défendre leur industrie et qui donc essaient de se positionner le mieux possible dans le cadre du futur projet européen.
En conclusion, Jean-Pierre Mollier, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une relance de la course aux armements, que l'époque où on parlait des dividendes de la paix est bel et bien révolue et que l'on assiste, pas en Europe, mais dans toutes les parties du monde, à une nouvelle course aux armements?
Il y a effectivement une nouvelle course aux armements à l'heure actuelle. La nouvelle course aux armements, elle est essentiellement due à la politique américaine et à la politique chinoise. Les Américains, leur plus grande peur, c'est d'être dépassés par les Chinois. Et toute la relance en termes de politique budgétaire de défense des Américains est liée à la montée en puissance du budget chinois, mais qui est encore pour l'instant largement inférieur au budget américain.
C'est de 1 à 3, voire même plus encore.
C'est de 1 à 3, effectivement. Mais oui, 1 à 3, 1 à 4. Il y a plus inquiétant à l'heure actuelle, c'est-à-dire que non seulement il y a une course à l'armement, qui est une course à l'armement quantitatif, mais il y a une course à l'armement qualitatif. C'est-à-dire qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où d'un côté, on va interdire les bombes à sous-munitions dû aux efforts des ONG, mais d'un autre côté, pour l'instant, il n'y a plus aucune mesure qui soit prise en termes de désarmement de l'espace. Et on est en train d'assister à l'heure actuelle à des projets de militarisation de l'espace. Il n'y a aucune restriction sur ce que pourraient être dans le futur les armes autonomes. Alors là, les ONG quand même essaient d'agir, mais pour l'instant, ce n'est pas véritablement une question qui importe pour les États. Et ça peut être extrêmement dangereux, on va dire, dans les années qui viennent.
Bien, c'est sur cette conclusion de vigilance que nous allons terminer. Merci Jean-Pierre Mollier pour ce tour d'horizon sur l'industrie de défense.